Chapitre 59. Lorsque la vie prend un sens. Plusieurs policiers se sont regroupés dans les couloirs du commissariat. L'ambiance est très tendue. Tous attendent impatiemment les dernières informations. La liaison avec le bateau de la police maritime a été coupée. Puis, le central a perdu tout contact radio avec l'hélicoptère de sauvetage. Iona est assis à son bureau à la Rikskrim et lit la carte postale que Disa lui a envoyée depuis le Gotland où elle assiste à une conférence. « Je te transmets une lettre d'amour de la part d'une admiratrice secrète. Bise, Disa. » Elle a dû chercher longtemps pour trouver une carte qui lui donnerait des haut-le-cœur. Il se prépare au pire et retourne la carte. Sur l'image, on peut lire « Sex on the beach » au-dessus d'un caniche blanc qui porte un bikini rose et des lunettes de soleil. Le chien est assis dans un transat, un grand verre à cocktail posé à côté de lui. On frappe à la porte, et le sourire de Iona s'efface dès qu'il aperçoit le visage grave de Nathan Pollock.
« Carl Palmkrona a légué tous ses biens à son fils, » dit Nathan.
« Je croyais qu'il n'avait pas de famille. »
« Il est mort, il avait 16 ans. Il semblerait qu'il ait été victime d'un accident hier.
Hier » »« Hier ?» répète Iona.
Stéphane Bergqvist a survécu 3 jours à Carl Palmkrona.
Que s'est-il passé?
Je n'ai pas très bien compris. Une histoire de moto. J'ai demandé à ce qu'on me transmette le rapport préliminaire.
Que sais-tu?
L'homme à la queue de cheval grise s'installe sur une chaise en face du bureau. J'ai parlé à plusieurs reprises à la mère, Sif Bergqvist, ainsi qu'à son concubin, Mick Johansson. Apparemment, Siv assurait le remplacement de la secrétaire de Palmkrona lorsqu'il travaillait au fjord de Sjötris Flotillion, la 4e flottille des forces navales de la marine royale suédoise. Ils ont eu une brève liaison, et elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle lui a annoncé la nouvelle, il lui a répondu qu'elle devait avorter. Siv est retourné à Westeros, a donné naissance à son enfant, et a toujours affirmé qu'il était de père inconnu.
Est-ce que Stéphane savait que son père était Carl Palmkrona?
Nathan secoue la tête en repensant aux paroles de la mère. « J'ai toujours dit au petit que son père était mort avant sa naissance. » Après avoir frappé, Annie Larson entre dans la pièce et dépose un dossier sur le bureau. Les feuilles sortent de l'imprimante et sont encore chaudes.
« Accident !» dit Anya en quittant la pièce.
Iona commence à lire le rapport de l'enquête préliminaire. L'intensité de la chaleur a fait que la mort n'est pas survenue après une intoxication à l'oxyde de carbone, mais est directement liée aux conséquences de ses brûlures. La peau du garçon avait éclaté en formant de profondes entailles. Sa masse musculaire avait fondu. La chaleur avait également causé une fracture du crâne et des os longs. Le médecin légiste avait constaté un hématome extradural. Le sang avait commencé à bouillir.
« Quelle horreur !» marmonne Iona.
Il ne restait rien de la baraque dans laquelle Stéphane Bergqvist était mort, ce qui avait compliqué les investigations. Une fois sur les lieux, les policiers n'avaient trouvé qu'une couche de cendres recouvrant des débris en métal et les restes d'un corps recroquevillé devant ce qui avait été la porte. La théorie de la police reposait sur un seul témoignage, celui du conducteur de train qui a alerté les pompiers. Il avait vu une moto en feu. Tout indiquait que Stéphane Bergqvist se trouvait à l'intérieur de la vieille baraque de chantier lorsque sa moto était tombée de façon à bloquer la porte. Le bouchon du réservoir n'était pas bien vissé et l'essence s'était alors répandue au sol. Au moment de la rédaction du rapport, on n'avait pas encore déterminé ce qui avait déclenché le feu, mais selon toute vraisemblance, il s'agissait d'une cigarette.
« Palmkrona meurt, » dit lentement Pollock. « Il lègue tous ses biens à son fils et 3 jours plus tard, celui-ci est retrouvé mort. »
« L'héritage revient à la mère ?»
Oui.
Plongés dans leurs réflexions, ils se taisent, et après quelques secondes, ils entendent les pas traînants de Tommy Koufoued dans le couloir, avant qu'il n'entre dans le bureau.
« J'ai ouvert le coffre-fort de Palmkrona, » dit Koufoued d'un air renfrogné. « Il ne contenait rien à part ceci. »
Il tient un magnifique livre relié en cuir dans la main.
« Qu'est-ce que c'est ?» demande Pollock.
« Une biographie, » dit Koufoued. C'est assez commun pour les gens de sa classe sociale.
Un journal intime, tu veux dire?
Koufoued hausse les épaules.
Plutôt des notes personnelles qui n'ont pas l'air d'avoir été écrites pour être publiées. Elles ajoutent simplement un chapitre à l'histoire commune de la famille. Ce sont des pages manuscrites. Ça commence par un arbre généalogique, il y a ensuite la description de la carrière de son père, suivie d'une énumération un peu monotone de ses propres études, examens, services militaires et carrière professionnelle. Il fait un certain nombre de mauvais placements et ses finances se détériorent assez rapidement. Il vend alors des terres et des propriétés. Tout est décrit de façon assez insipide. Et son fils? Sa relation avec Siv Bergqvist est décrite en quelques mots comme un accident, répond Tommy Kufwed en inspirant profondément. Mais assez rapidement, il commence à mentionner Stéphane, et les notes de ses 8 dernières années lui sont exclusivement consacrées. Il suit sa vie de loin, sait à quelle école il va, quels sont ses centres d'intérêt, qui sont ses amis. Il mentionne l'héritage à plusieurs reprises et semble économiser tout son argent pour son fils. Enfin, il décrit comment il compte prendre contact avec lui dès qu'il aura 18 ans. Il espère que son fils lui pardonnera et qu'ils pourront enfin apprendre à se connaître après toutes ces années. Il ne pense qu'à cela. Et maintenant ils sont morts tous les deux.
Quel cauchemar, marmonne Pollock.
Qu'est-ce que tu as dit?
Demande Yona en levant la tête.
Je me disais juste que c'est un vrai cauchemar, répond Pollock d'une voix étonnée.
Il fait tout pour assurer l'avenir de son fils, qui lui survit à peine 3 jours sans jamais avoir su qui il était.